Dimanche, François Lavoie a terminé troisième du championnat des joueurs de la Professionals Bowlers Association et s'est mérité une bourse de 80 000 $ américains. Connor McDavid des Oilers d'Edmonton a inscrit son 500e point en carrière dans la LNH. LeBron James des Lakers de Los Angeles est devenu le troisième joueur de la NBA à marquer 35 000 points. Naomi Osaka et Novan Djokovic a remporté les internationaux de tennis d'Australie. Et pendant que le tournoi des cœurs Scott de curling se déroule présentement à Calgary, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Louis Garon, Yvan Deslauriers, Laurent Dubreuil, Camille Frenette, Francis Ménard, Fabienne Perrin-Blizard. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 23 février, nous parlerons de patinage de vitesse longue piste, d'e-sport à Parasport Québec, de paratriathlon, de basketball professionnel, de mentorat dans le sport et finalement, on fera un peu d'histoire en patinage de vitesse longue piste. Laurent Dubreuil a remporté le 500 mètres lors des championnats du monde de patinage de vitesse de longue piste aux Pays-Bas. Il est le troisième Québécois après Gaétan Boucher, et Sylvain Bouchard a remporté une médaille d'or à ces championnats du monde. Après 5 semaines en Europe, il est de retour au Québec. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Dubreuil, ça va bien?
Bonjour, ça va bien, vous?
Oui, très bien, merci. Ça fait une semaine que vous êtes revenu au pays. Avez-vous eu le temps de célébrer avec votre médaille d'or avec votre famille?
Je ne suis pas quelqu'un qui fait des grosses célébrations, puis j'étais en quarantaine de toute façon, fait que ça a été assez tranquille, mais ça fait du bien de revenir à la maison puis de pouvoir décompresser un peu.
Vous avez aussi gagné une médaille de bronze au 1000 mètres, qui n'est pas nécessairement votre spécialité. Cette médaille-là se compare comment avec celle du 500 mètres?
Sont les deux différentes. Comme vous dites, le 1000 mètres, c'est pas ma spécialité. Fait que quand je suis capable de grimper sur le podium au 1000 mètres, je suis vraiment content. Pour me donner une idée, là, en Coupe du monde, dans ma carrière, j'ai 15 médailles individuelles. J'en ai 13 au 500, 2 au 1000 mètres. Fait que c'est chaque médaille au 1000 mètres est peut-être un peu plus spéciale. Par contre, le titre de champion du monde au 500, c'est la première fois de ma carrière que je gagne, que je suis champion du monde. Même si au 1000 mètres les médailles sont plus rares, le fait qu'au 500 mètres ce soit une médaille d'or lors de la journée qui était la plus importante, c'est sûr que c'est celle-là qui est la plus spéciale à mes yeux.
Donc c'est une bonne pratique pour le 500 mètres des Jeux olympiques de Pékin qui vont avoir lieu à peu près dans un an là.
Ben oui, c'est les mêmes patineurs qui vont se ramasser sur la ligne aux Olympiques, c'est la même distance, c'est pas la même glace, mais je veux dire, c'est des anneaux intérieurs, toutes les glaces se ressemblent un petit peu. Donc, ça fait de moi un des favoris, évidemment, pour les Olympiques, mais c'est dans longtemps, puis j'essaie de pas trop y penser, j'essaie de me prendre au jour le jour, puis de me concentrer sur chaque entraînement, pas me projeter dans le futur, parce que c'est une erreur que j'ai faite par le passé, puis ça fait que t'es pas à ton meilleur à chaque jour au quotidien, puis c'est le fait d'être à son meilleur à tous les jours qui va faire qu'on va être le meilleur possible dans 12 mois.
Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Je suis dans une chronique sur le site Internet de Radio-Canada. Dominique Gauthier, qui est le fondateur de B210, a affirmé que les athlètes s'entraînaient peut-être un peu trop, comme si les sports étaient un peu votre repas préféré et qu'on mangeait à tous les jours, genre « j'adore le spaghetti, je mange du spaghetti à tous les jours ». La pandémie avait permis de retrouver une certaine équilibre, puis vous avez dit en entrevue à RDS que vous aviez patiné seulement 18 fois, entre mars et la première Coupe du monde qui a eu lieu en janvier. Donc, vous avez mangé moins de spaghettis pendant ce temps-là. Vu les résultats de la médaille d'or au championnat du monde, est-ce que vous allez modifier votre plan d'entraînement pour 2021 et 2022 en vue des Jeux olympiques de Pékin?
C'est une très bonne question. C'est quelque chose sur quoi on se penche en ce moment avec le personnel d'entraîneur. J'ai lu l'article de Dominique. Je suis d'accord avec son idée. Surtout, il y a des sports qui passent tellement d'heures à l'entraînement spécifique là, à faire leur sport en tant que tel, que c'en est probablement trop. Par contre, je pense que peut-être qu'on a, je veux dire, là, si on était obligé de pas patiner à cause de la pandémie, on n'avait pas de place pour patiner à Québec, que l'anneau de Calgary a brisé, puis qu'il y avait nulle part où patiner au Canada, puis faire des camps d'entraînement à l'étranger, c'était pas possible. Donc, presque pas patiner, comme vous avez dit, cette saison, mais je pense que là, on a trop corrigé. Là, on était dans le pas assez, probablement. Puis c'est sûr que j'ai eu, je veux dire, ma meilleure saison en carrière, puis je suis champion du monde, mais si je regarde dans les moments où on a patiné, dans le voyage, là, c'était un voyage de 5 semaines, c'est les seules compétitions qu'on a eues de l'année. Il y a eu 2 Coupes du monde, 1 semaine de repos, puis après ça, les championnats du monde, dans la semaine de repos, on s'entraînait. Mais mes meilleures courses, c'était à la fin. Puis je pense que la façon que je me sentais, oui, j'ai gagné les championnats du monde, mais si j'avais eu un mois de plus pour patiner, j'aurais continué à m'améliorer. Là. Tu sais, j'ai pas patiné assez pour être à mon plein potentiel cette année. Je pense que j'aurais été meilleur, mettons qu'on avait continué un mois de plus jusqu'au mois de mars, mais je serais probablement meilleur en ce moment que je l'étais il y a 2 semaines.
Donc, mélange des deux approches, peut-être?
Exactement, un mélange des deux approches. Puis oui, c'est sûr que le fait de... On s'est clairement prouvé qu'on n'avait pas besoin de patiner autant. Par contre, je sais pas à quel point non plus c'est une stratégie gagnante à chaque année de patiner aussi peu, là, parce que je pense que la raison que ça a fonctionné, c'est que mon bagage de patin est énorme. Oui. Donc, c'est comme un puits presque sans fond, mais des années comme cette année, c'est le puits commence à s'assécher, puis après quelques années, en patinant aussi peu, peut-être qu'on serait un peu rouillé sur la glace. Donc, je pense de trouver, comme vous avez dit, juste un milieu entre les deux, ça va être la solution gagnante.
Et à quoi ça ressemble un entraînement de patinage de vitesse longue piste?
Vous voulez dire, mettons, une semaine normale, une journée normale ou un entraînement spécifique?
Genre un entraînement là, sur une semaine à peu près. Là.
OK. Ben, ça dépend des périodes de l'année. Évidemment, quand on a accès à de la glace, on patine plusieurs jours dans la semaine. Sinon, l'été, par exemple, quand on patine pas, ben, on va avoir peut-être deux, trois entraînements en musculation. On va avoir quelques entraînements, des sauts là, comme en position de patin, qu'on fait des sauts comme la technique de patin, mais en souliers. Peut-être un peu de... Moi, je suis un sprinteur, là, fait que des sprints en athlétisme, ça ressemble quand même au sprint de départ ou un départ en patin. On va avoir un peu d'intervalle sur le vélo, un petit peu d'aérobie, mais pas tant que ça, parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis un sprinteur, mais si vous aviez demandé à un patineur de 10 000 mètres, ben lui, il aurait probablement dit 3 heures de vélo par jour, à tous les jours, avec quelques entraînements de patin. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est plus ouais. De la qualité. C'est
plus pour toi, plus que 4 tours, c'est trop, là?
Exactement. Moi, je fais 500 et 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 2 tours et demi. Puis le plus long que j'ai fait sur la glace dans les deux dernières saisons, c'est 2 tours et demi. Je fais jamais plus long que ma distance. Puis c'est juste en course que je le fais. Là, je fais des entraînements relativement courts, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. Cours d'explosion.
Je connais un peu le patinage de vitesse longue piste, pardon, je le regarde aux Jeux olympiques, puis une fois de temps en temps, bon, quand il y a des bons résultats par les athlètes canadiens. Puis j'ai entendu dire que les pistes comme Calgary en haute altitude sont plus rapides, par exemple. Mm-hmm. Aux Pays-Bas, j'assume que les glaces étaient plus lentes.
Oui.
Est-ce que ça prend des qualités différentes dépendant de la glace, si elle est rapide ou lente?
C'est le même sport, hein, fait que c'est pas une grosse différence. Si on regarde les gens qui gagnent les Coupes du monde à Calgary ou Salt Lake City, c'est encore plus rapide que Calgary, c'est les deux glaces les plus vite au monde, versus les gens qui gagnent les Coupes du monde aux Pays-Bas ou en Europe, où la plupart des glaces sont plus proches du niveau de la mer, c'est généralement les mêmes patineurs. Je dirais que pour les sprints, ça fait une différence technique parce que, vu que ça va plus vite en altitude, puis juste pour l'expliquer aux gens qui ne savent pas pourquoi ou qui se posent la question, c'est à cause de l'air, là, la pression atmosphérique oui. Est plus basse en altitude, ça fait que tu as moins de résistance de l'air, puis tu fais juste traverser l'air plus vite. Patiner à Calgary ou à Salt Lake, on a l'impression qu'il n'y a rien qui nous arrête. Là. On traverse l'air comme si de rien, puis quand on patine aux Pays-Bas, on a plus l'impression que l'air est dense, si on veut.
OK.
Fait que c'est pour ça, mais ce que le défi ajouté de patiner à Calgary ou Salt Lake, c'est vu que ça va plus vite, ben les virages sont plus durs à négocier. Puis les patineurs qui sont pas habitués vont arriver souvent à Salt Lake, qui est la glace la plus vite, vont arriver là, puis ils vont comme paniquer. Là. Ils ne seront pas capables de gérer la vitesse dans les virages, puis ils n'auront pas des bons sprints. Mais dans les longues distances, ça va pas assez vite pour avoir cet effet-là. Fait que pour nous, c'est surtout ça. Mais nous, Canadiens, moi, je viens de Québec, mais je suis allé à Calgary tellement de fois dans ma vie qu'on est habitué. Fait que pour nous, ça nous donne un avantage quand c'est en altitude. Puis généralement, nos résultats sont meilleurs comme équipe nationale à Calgary ou à Salt Lake qu'en Europe. Mais là, on a quand même eu de très bons résultats aux Pays-Bas, même si la glace, c'est pas notre type de glace, entre guillemets.
OK. Donc, vous avez mentionné que vous allez à Calgary très, très souvent parce qu'il n'y a pas de glace longue piste au Québec. On est plus des spécialistes du courte piste vu les infrastructures. Cependant, il y a une centre de glace à Sainte-Foy qui va ouvrir au mois de septembre ou cet automne du moins. Est-ce que pour vous, ça va être un avantage?
Oui, absolument. On va finalement être à niveau avec nos compétiteurs dans le monde. Je veux dire, un anneau intérieur comme ça, c'était nouveau il y a 30 ans à peu près. Là. C'était le premier, c'est en 1987 qui est ouvert à Berlin. Mais de nos jours, c'est commun. Là. Tous les pays en ont. Puis il y a peut-être 2-3 pays là, qui sont bons en patin qui n'en ont pas, mais c'est des pays en Europe qui ont juste à faire 5 heures d'auto, puis ils ont traversé la frontière, puis sont dans un autre pays, puis ils ont accès. Nous, le plus proche, c'était Calgary, qui est à quoi 5 heures d'avion de Québec.
C'est ça, ouais.
Fait que c'est pas facile d'accès. C'est pas genre je vais y aller pour la fin de semaine, puis je reviens chez nous. Là.
Non, ça
prend un gros camp d'entraînement de l'organisation pour y aller. Mais oui, ça va faire une énorme différence. Bien sûr, pour moi, spécifiquement, là, mais pour le patin longue piste en général au Québec, parce que comme vous l'avez dit, notre équipe nationale en courte piste, l'équipe canadienne est 90% québécoise probablement. Puis on les connaît, là, les Charles Hamelin, puis Marianne qui patine plus, mais Kim Boutin ou Samuel Girard qui a gagné les derniers Olympiques aussi. Donc on en a plein des superstars en courte piste. Puis la raison qu'on en a moins en longue piste, c'est tout simplement parce que notre sport n'était pas très attrayant. On a patiné dehors à Québec au mois de janvier. Là,
à moins 30, c'est plate un peu.
Moins 30 avec un gros vent en face, c'est un peu moins le fun, là, surtout pour des enfants. Fait que c'est pas un sport qui attirait beaucoup, mais là, avec ces installations-là qui vont être à la fine pointe de la technologie de notre sport, on va pouvoir recevoir des Coupes du monde ou des championnats du monde. On va avoir les qualifications, les techniques là, requises par la Fédération internationale pour avoir les plus gros événements. Bien, c'est clair que ça va être un sport qui va être le fun pour les jeunes, puis on va avoir de la relève en maudit.
Bien, je vous souhaite bonne chance, en espérant que vous ayez la chance d'ici peu de faire des compétitions devant votre famille. En attendant, oui, bon entraînement, bon repos, et puis on se reparle prochainement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonne journée.
Bonne journée. Alors, depuis le mois de mars dernier, certains para-athlètes ont été plus atteints par les mesures sanitaires implantées contre la COVID. Afin de briser l'isolement, Parasport Québec fait son entrée dans le sport électronique dans le lancement d'un projet pilote. J'en parle avec le directeur général de l'association, Francis Ménard. Salut Francis, ça va?
Oui, bonjour Dominique, ça va bien, merci.
Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet de e-sport?
Oui, bien, un peu comme tu l'as dit en introduction, donc ça fait pratiquement un an là, que la majorité de nos athlètes sont à l'arrêt, puis on a des athlètes qui sont plus affectés que d'autres, c'est-à-dire qui vivent déjà plus d'isolement en temps régulier que la population régulière, puis là, qui se retrouvent sans pratiquement aucun contact humain autre que leur famille depuis mars dernier. Donc, c'est rendu difficile de les mobiliser en ligne là, pour des rencontres ou essayer de les garder actifs. Principalement, c'était nos athlètes en power chair soccer, donc paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, là, ce type d'athlètes-là. Donc, à force de parler avec eux puis d'essayer de trouver des nouveaux moyens de les garder actifs, on a trouvé l'idée là, de partir un projet avec le jeu vidéo en sport électronique pour les rassembler en ligne. Là, c'était principalement ça l'objectif, là, les rassembler, qu'ils reprennent contact avec leurs amis, puis de redonner une stimulation, que ce soit cognitive, psychologique, que tu aies un lien humain là, à travers les nouvelles technologies.
Mais les sports électroniques, depuis quelques années, gagnent énormément en popularité. Ça remplit des arénas, il y a des gros championnats du monde, des grosses affaires comme ça. Est-ce que c'était, pandémie ou pas, une idée de Parasport Québec de s'associer au sport électronique?
Ben moi, personnellement, j'ai un intérêt, là, j'ai une curiosité. Là, c'est dans le cadre de mes études au HEC en management du sport, là, j'ai fait de la recherche un peu sur le sport électronique. Mais j'avais jamais pensé faire le lien entre ça et Parasport Québec jusqu'à tout récemment. Donc, tu sais, c'est vraiment une impulsion entre des demandes d'athlètes et mon intérêt, puis d'essayer de trouver une solution à cette problématique qui a émergé. Là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on mijotait depuis quelques années, mais on se rend compte que c'est des demandes que d'autres personnes du milieu ont. Tu sais, le Stiva m'en a parlé, là, qu'il y avait quelques athlètes qui leur demandaient éventuellement de peut-être faire des activités en jeu vidéo, en sport électronique, des choses comme ça. Donc, tu sais, on voit que il y a un intérêt, puis tant mieux si ça répond à un besoin de notre clientèle. Ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose aussi par la suite. C'est pour ça qu'on a voulu bien structurer notre programme, là, avec un entraîneur formé, une équipe de recherche, là, la chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation. Donc, tu sais, pour comprendre un peu ce qu'on fait, voir est-ce qu'il y a du positif, du négatif, puis comment est-ce qu'on peut structurer ça par la suite. Là.
Donc, vous avez dit que vous êtes associé à des entraîneurs, à une chaire de recherche pour trouver le positif ou le négatif. Mais est-ce que tu peux pousser ça un petit peu plus loin? Là? Pourquoi,
ben, oui, parce
pourquoi
que...
ça?
Ben, pourquoi? Parce que, tu sais, il faut pas se le cacher, là, le sport électronique dans les sports traditionnels, c'est pas nécessairement bien vu de prime abord. Il y a beaucoup de barrières. Il y a une fédération des sports électroniques qui existe au Québec et qui est pas en mesure d'obtenir une reconnaissance du ministère parce qu'il y a tout ce conflit-là entre les sports traditionnels, sports électroniques, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est pas du sport. Donc, tu sais, on marche un peu sur des œufs. Donc, en étant une fédération sportive reconnue, tu sais, on a un rôle, on a des responsabilités. Puis, de se lancer dans le sport électronique, je voulais pas le faire juste pour dire, OK, ben, regarde, les amis, on va vous mettre une petite structure en ligne pour vous rencontrer, puis de pouvoir jouer entre vous, puis comme ça, ben ça va vous briser l'isolement. Ça, c'est pas notre rôle, c'est pas notre responsabilité. Notre rôle et notre responsabilité, c'est de structurer du sport. Donc, est-ce qu'on peut répondre à la problématique d'isolement à travers la structure sportive? Le sport électronique est de plus en plus structuré, de plus en plus réglementé, de plus en plus aussi reconnu, et autant par ses bienfaits que par sa structure compétitive. Là, comme tu l'as dit, il y a des stades complets qui peuvent être remplis pour voir des compétitions de sport électronique. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un projet professionnel qui puisse être difficile, si on veut, à attaquer ou à dire, ben là, vous avez fait n'importe quoi, vous affectez la réputation du sport électronique. Moi, je veux qu'on sorte de ce projet-là en disant on a aidé la réputation du sport électronique, puis on a agi comme une fédération avec des règlements, avec une structure d'encadrement, avec, si possible, une progression vers la performance, puis une compétition, mais en intégrant une équipe de recherche parce qu'il y a des problématiques qu'on vit. Mais je pense que, de toute façon, tous les sports devraient toujours être associés avec une équipe de recherche pour comprendre ce qu'ils font puis comment ils peuvent s'améliorer.
Oui.
Puis c'est la voie qu'on a décidé d'utiliser. Donc, tu sais, on ne veut pas laisser place à la critique, on veut au contraire servir d'exemple puis de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sport électronique ensuite? Que ce soit pour des personnes en situation de handicap ou pour le sport électronique en général, tant mieux si on peut aider tout le monde.
Et quel jeu vous allez utiliser pour intéresser les jeunes ou les gens qui veulent participer?
Oui, ben là, on est sur Rocket League. Donc, c'est un jeu de soccer à travers des voitures qui sont propulsées par une fusée. Là. Donc, c'est soit du 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3 avec un gros ballon. T'sais, nos athlètes, ils se retrouvaient, ils s'identifient un peu là-dedans. Hein, en Power Chess Soccer, tu es dans un fauteuil électrique, tu pousses un gros ballon. Je simplifie, là. Mais ouais. C'est un peu ça aussi, ce jeu-là. Donc, il y a aussi une ressemblance, familiarité entre les deux sports. Fait que c'est pas un jeu facile à prendre en main, donc on a certains défis, puis c'est pour ça qu'on est dans un projet pilote aussi, là. Donc on a certains défis de prise en main par certains athlètes là, au niveau de l'adaptation des manettes, des plateformes de jeu ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'on est dans un projet pilote. Ça nous permet d'étudier, de voir c'est quoi les problématiques. Mais reste que ceux qui sont en mesure de jouer, là, ils ont du plaisir, puis ils retrouvent un peu ce lien-là qu'on cherchait à refaire entre eux.
Merci, Francis, pour les informations. Et quand on aura les grandes lignes de ce projet de recherche-là, ou ce projet-là, on en reparlera. Puis si on veut plus d'informations, merci. On visite votre site Internet?
Oui, parasportquebec.com, puis écrivez-nous. Là, on n'a pas beaucoup d'informations sur le site web, mais n'hésitez pas à nous écrire.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Salut.
Camille Frenette fait du paratriathlon depuis seulement 2 ans, même si elle fait du triathlon depuis plusieurs années. La semaine dernière, elle a rédigé un article sur le site Internet de la CBC. Le titre que je vais traduire librement, « Le parasport m'a accueilli, mais est-ce que je m'y identifie? » Je voulais en parler avec elle. Elle est au bout du film et d'Halifax, puisqu'elle étudie à l'Université de Dalhousie. Bonjour Camille.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Très bien, merci. Alors, pour les gens qui n'ont pas lu l'article, peux-tu nous en faire un court résumé de ce que tu racontais dans l'article?
Oui, certainement. Donc, l'article est en fait, ça a venu de plusieurs conversations que j'ai eues avec ma famille, mes amis, la psychologue sportive, mon entraîneur. C'est un peu sur le sujet de l'inclusion, mais de l'autre côté de la médaille. Donc, en fait, c'est comme, je fais partie de l'équipe para, mais mon handicap est peut-être un peu plus subtil que d'autres personnes qui font partie de l'équipe. Puis ça m'a souvent apporté à me mettre en question, est-ce que je devrais faire partie d'une équipe para ou non? Donc, en fait, c'est ça les grandes lignes.
Pourquoi avoir écrit un tel article plus en détail?
Je pense que, ça a commencé plus, je l'écrivais juste pour moi-même, juste c'était mes pensées, puis c'était plus comme comment je me sentais, puis ouais, c'est ça. Mais finalement, j'ai réalisé que il y a probablement d'autres personnes, peut-être qui étaient dans une situation similaire que moi, puis qui se demandent si qu'ils devraient être dans une certaine situation, peu importe. Puis aussi pour les gens du public, il y a probablement beaucoup de personnes qui me voient aller, puis qui me voient m'entraîner, puis qui se demandent comme pourquoi est-ce qu'elle fait partie des jeux para. Donc, c'était un petit peu ça. C'était juste pour remporter des réponses à certaines questions.
Mais tu as dit que ton handicap était minime. Rapidement, peux-tu nous dire c'est quoi ton handicap?
Oui, donc je suis née avec un pied beau. Ce qui veut dire que mon pied droit était entré complètement à l'intérieur à la naissance. Donc, j'ai eu une chirurgie à l'âge de 4 mois, qui a corrigé ça. Donc, ça a ramené mon pied droit, mais ça reste que de mon genou à mon pied, tout est plus petit. Donc, mon mollet est beaucoup plus petit du côté droit, et mon pied est beaucoup plus petit, donc environ 2 à 3 grandeurs de souliers de différence entre mes deux pieds. Donc, c'est ça. C'est la force dans ma jambe droite qui est affectée.
Comment ça affecte ta performance en triathlon?
Certainement, pour être dans l'équipe de paratriathlon, on a dû faire beaucoup de tests pour être comme accepté. Puis le plus gros, la plus grosse impact, c'est probablement la course. Premièrement, ma jambe n'est pas vraiment faite pour courir, comme on pourrait dire. Donc j'ai beaucoup de douleurs comme au pied après une course, c'est pour ça que je cours juste comme une fois tous les 2 jours, j'essaie de pas trop mettre d'impact dessus. Puis l'autre affaire aussi, c'est certainement le vélo. J'ai beaucoup moins de force d'un côté que de l'autre. Donc, lorsque je pédale, c'est sûr que ça affecte.
Donc, quand tu as dit, le coach t'a approché pour faire partie de l'équipe de paratriathlon, tu n'étais pas sûr parce que tu disais que ton handicap était peut-être trop minime pour faire le sport. Mais quand tu t'illustres sur la scène internationale, donc tu es dans le top 5 en termes de performance ou dans le ranking mondial. Tu n'es pas la seule qui des handicaps qui sont minimes quand tu compares aux autres athlètes à travers le monde.
Non, exactement. Les parasports en général, c'est divisé en catégories. Donc, tout le monde est comme genre, on ne compétitionne pas contre des gens qui sont, mettons, en chaise roulante ou qui ont des handicaps un peu moins minimes, comme on dirait. Donc, c'est sûr que maintenant que j'ai commencé, puis maintenant que je vois c'est quoi le paratriathlon, puis je vois les autres personnes que je compétitionne avec, nos handicaps sont très, très similaires. Dans ma catégorie, le PTS5, c'est toutes des catégories quand même assez minimes. Donc, maintenant que je comprends plus c'est quoi le paratriathlon, c'est quoi le niveau de performance, le niveau de tout ça, ouais, c'est ça.
qu'est-ce que tu dirais à la Camille d'il y a trois ans, pour dire ouais, le paratriathlon, là, c'est quelque chose que tu vas aimer, puis ça va t'amener à faire plein de voyages à travers le monde, puis tu as une chance de gagner des médailles à Tokyo. Tu lui dirais quoi?
Je lui dirais d'embarquer dans l'aventure pour sûr. Je pense que ça a été bien quand même. Ça m'a pris comme un an à vraiment comme prendre la décision puis d'être correct avec ça. Puis je pense que c'est un processus. Des fois, je me dis à ça, oh, ça aurait été un an de plus à m'entraîner puis à compétitionner, mais d'une façon, je pense que c'était ça comme la période d'acceptation que j'ai eu à faire. Puis à ce stade, je suis super contente d'être où est-ce que je suis. Mais s'il y aurait une chose que je lui dirais, c'est de comme être toi-même, être super fière, puis de prendre l'opportunité que avoir un handicap m'emporte dans la vie. C'est de juste prendre l'opportunité puis que ça va être une expérience certainement inoubliable.
Puis souvent, dans nos sphères, dans d'autres choses de la vie, on a toujours de la difficulté à dire « Est-ce que j'appartiens à ce groupe-là? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que ce genre d'expérience-là va t'aider pour dans d'autres sphères de ta vie? »
Oui, certainement. Je pense que c'était un petit peu ça aussi, mon article. C'était, moi, je me sentais, évidemment, comme si peut-être que j'avais pas ma place, mais je pense que tout le monde a probablement eu un moment dans leur vie ou une situation où est-ce que ils se sentaient pour une raison ou une autre qu'ils étaient peut-être pas à leur place. Ça peut être quelqu'un avec un problème d'apprentissage, ça peut être un handicap physique, un problème de santé mentale, n'importe quoi. Je pense que souvent, les gens se questionnent comme, est-ce que je devrais être là? Est-ce que je devrais être dans ce cours ici ou dans ce job ici? Est-ce que je suis assez bon? Puis, je pense que c'est juste de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de réaliser que souvent, la plupart du temps, t'es où est-ce que tu devrais être, puis de continuer de foncer.
Merci beaucoup, Camille. C'est tout pour notre entrevue. On s'en va à la pause de la mi-temps et on revient après la pause.
Welcome to the Halftime Show. We'll be right back.
person with these things in mind. But although they can see the words revealed, it's the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I can't believe I didn't fall right down on my face.
I was confused,
looking everywhere, only to find that it's not the way I had imagined it all in my mind.
So what am I?
What do I have? The negativity, 'cause I can't justify the way everyone is looking at me.
Nothing to lose.
Nothing to gain. Hollow and alone, and the fault is my own, and the fault.
Alors, vous venez d'entendre la chanson Somewhere I Belong de Linkin Park. Les Blackjacks d'Ottawa de la Ligue canadienne élite de basketball ont annoncé mercredi que Fabienne Perrin-Blizzard a été nommée entraîneuse adjointe. Elle rejoint l'entraîneur-chef Charles Dubé-Bray, qui est venu quelques fois d'ailleurs à mon émission. Madame Blizzard est actuellement la seule femme à occuper un poste d'entraîneuse sur la scène du sport professionnel dans la capitale nationale et j'ose dire aussi dans l'est du pays. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Perrin-Blizzard. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi?
Très bien, merci. D'abord, félicitations pour le nouveau poste.
Merci, merci.
Je pense que les gens ne sont pas très au courant, tout d'abord, de la Ligue canadienne élite de basketball. Le niveau de jeu ressemble à quoi?
Le niveau de jeu, il est très élevé. Pour moi, je dirais, c'est comme... Il y a le NBA, il y a le G League, puis nous autres, on est comme dans le milieu de ça. Fait que c'est comme la semi-professionnelle pour le G League et aussi NBA.
Donc, la saison se déroule de quand à quand?
Nous autres, on va commencer à la fin du mois de mai. Donc, je pense que les athlètes vont arriver pour le training camp, mais à cause du COVID, comme vous savez, ça va être 2 semaines de quarantaine.
Oui.
De quarantaine. Puis là, nous autres, on va aller de juin jusqu'à août.
OK. Et donc, vu que c'est durant l'été la plupart du temps, c'est pas un emploi à temps plein que vous avez eu, hein?
Non. C'est vraiment la saison espace durant ce temps-là. Ça nous donne la chance aussi d'avoir des athlètes du Canada, surtout qui sont en Europe présentement, qui peuvent jouer aussi pour se garder vraiment du en shape professionnel et à jouer dans dans la Ligue professionnelle du Canada.
Vous avez entraîné à plusieurs niveaux, universitaire, provincial, national. Est-ce que le niveau professionnel était la prochaine étape pour vous?
Oui, c'était vraiment la prochaine étape. Je m'attendais pas que ça soit aussi vite parce que moi, je suis vraiment comme je regarde tout mon cheminement. Puis quand c'est arrivé, j'ai dit bien, ça veut dire que l'univers me dit que je suis prête maintenant d'en apprendre un petit peu plus. Puis là, c'est là, le fait que je suis arrivé là à ce moment-là, je suis excitée parce que je sais que je vais grandir dans ce niveau-là. Puis c'est le niveau que je voulais vraiment arriver. Moi, je m'attendais peut-être dans 2 ans, mais le fait que c'est maintenant, là, je suis excité.
Et est-ce que vous connaissiez l'entraîneur-chef Charles Dubébret avant ou comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé, l'embauche?
Je le connaissais pas avant ça, mais c'était drôle quand on s'est parlé. Parce que ça, c'était une de mes entrevues. On connaît le même monde parce que moi, je viens de Sorel-Québec, puis lui vient de Québec.
OK.
Puis c'est le monde, on se nommait du monde qu'on connaissait, puis c'est le même monde, mais c'est le basketball, comme vous savez. quand tu rentres du côté du sport, tout le monde se connaît.
On finit toujours par se connaître. D'ailleurs, on s'est côtoyé au niveau universitaire là, quand vous étiez entraîneuse des GGs à l'Université d'Ottawa, où j'ai gradué moi-même.
oui.
Et vous avez donc, est-ce que c'est la première fois que vous allez entraîner des hommes?
Oui, des hommes, ça va être la première fois. Moi, j'ai fait les garçons et les filles pendant des années. Je continue à faire le côté l'école secondaire aussi avec les garçons. Mais du côté des hommes professionnels, c'est vraiment la première fois. Puis c'est ça qui m'excite parce que c'est le challenge de ça, d'avoir une nouvelle connaissance, une nouvelle approche. C'est ça que pour moi ça m'excite tout le temps d'apprendre avec différentes personnes.
Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une période d'adaptation ou des choses que vous allez avoir à modifier dans la façon d'entraîner?
C'est certain. C'est quelque chose aussi que Charles il m'avait parlé de ça aussi parce que il dit lui il a été à sa transition quand il a fait ça parce que beaucoup son cabaret est extraordinaire qu'est-ce qu'il a fait. Puis j'aime beaucoup la manière qu'il nous qui nous parle par rapport à ça, c'est mes leçons quand j'ai commencé. Puis il fait ça avec nous tous à toutes les semaines. On a des appels maintenant, juste pour vraiment qu'on puisse commencer à se connaître, puis voir c'est quoi nos forces. Puis dans ce temps-là, pour nous autres aussi, il essaye aussi de s'arranger que notre culture soit prête à recevoir les athlètes. Ça veut dire que pour moi, je me sens pas comme si je vais arriver dans un environnement où ce que je suis une femme puis ils vont me regarder différent. J'ai jamais pensé comme ça. Je travaille du côté infrastructure dans IT puis je travaille juste avec des ingénieurs. Fait que je pense que je trouve que je suis habituée d'être à l'entour des hommes fait que ça m'intimide pas du tout. C'est juste pour moi qu'est-ce que je veux faire? Je veux vraiment trouver ma place.
Okay.
Puis ça veut dire qu'il faut que j'écoute, il faut que j'entende qu'est-ce qui se passe. Je vais voir qu'est-ce qu'eux autres ont besoin, surtout les athlètes, les écouter, puis voir, OK, mais c'est où je vais faire ma place, c'est comment je peux t'aider. Puis c'est comme ça que je m'embarque, mais je vois pas avoir de résistance vraiment, pas avec Charles. Il y a vraiment une approche pour le respect de l'individu, puis comment qu'on va travailler ensemble, fait que je vois pas de problème là.
Et vous êtes la 5e femme entraîneuse dans la Ligue. Mm-hmm. Puis il semble avoir beaucoup plus de femmes qui entraînent au niveau masculin dans le basketball professionnel qu'au hockey ou au soccer. Pourquoi, selon vous?
Moi, je pense que ça commence graduellement. Parce que les femmes peuvent entraîner n'importe quel sport. Ma sœur a fait le football à Montréal.
Okay.
Elle a pris sa certification. C'est vraiment... on a les mêmes connaissances. La plupart de nous, nos pères aimaient le hockey, nos pères aimaient le football. Moi, j'ai joué au football. C'est ça qui est drôle aussi à faire. J'adore le football. Fait que tu peux, j'ai dit, quand c'est ta passion, c'est, si tu veux apprendre le sport, puis quand tu joues, c'est un essai, mais t'as pas besoin. Si tu l'apprends, puis tu es capable de délivrer et d'enseigner et de coacher, pourquoi pas? Puis moi, je trouve qu'en Amérique, on voit plus la tendance, la porte commence à ouvrir dans tous les sports, puis les femmes peuvent vraiment s'embarquer dans ce milieu.
Puis le fait d'être entraîneuse à la maison à Ottawa, où vous demeurez maintenant, ça aussi, c'est quelque chose qui va être le fun?
Ah, ça va être extraordinaire parce que je trouve que la communauté d'Ottawa m'a vraiment, tu sais, comme depuis que je suis arrivée comme joueuse, comme je vous ai dit, on s'est rencontrés quand j'étais à l'université, juste quand j'ai fait ma transition de joueur à entraîneur. Mais avant ça, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'embarquer avec la communauté. Ils venaient me supporter à mes joutes. Je savais quand je sortais, le monde me saluait. Puis là, c'est là que j'ai fait la transition d'aller commencer à coacher dans la communauté. Puis aussitôt que l'annonce a été faite, j'ai reçu des appels, des textes. Le monde était heureux pour moi. Puis je pense que c'est à cause que j'ai continué à vraiment m'intégrer dans la communauté du côté basketball, du côté des filles, des garçons, puis le plus possible où ce que je peux aider. Puis c'est comme ça que la communauté me renvoie toute cette énergie-là. Moi, j'ai hâte parce que j'ai dit, je veux vraiment que les Blackjacks, qu'on amène la communauté avec nous. Parce que moi, je regardais les games l'année passée, puis là, je veux que tout le monde regarde, parce que c'est une saison que, quand on regarde ça, j'ai dit, la plupart de nos hommes peuvent rester à Ottawa pour jouer au basketball professionnel. Donc, ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire.
Donc, merci beaucoup, Mme Perrin-Blizard. Je vous souhaite un bon été en basketball, et puis on va s'en parler prochainement. Bonne journée.
OK, merci beaucoup.
Au revoir. Alors, je rejoins mon chroniqueur Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan.
Bonjour Dominique.
Alors, au cours des dernières semaines, raconte-moi où tes recherches t'ont amené.
J'ai commencé à faire une recherche sur le basketball en fauteuil roulant et ça m'a amené vers...
Avant tes recherches, t'avais-tu déjà joué ou essayé le basketball en fauteuil roulant, toi?
Ah non, jamais. Non.
Ouais. C'est pas pire.
Même le basketball, pas en fauteuil roulant, j'ai joué très, très, très peu.
Mais quoi que t'as pas besoin d'être super grand en fauteuil roulant, en basket en fauteuil roulant, à un moment donné, on ira jouer si ça te tente à un moment donné.
OK, ça me fait plaisir. Merci.
Donc, on repart à la chronique, là, vas-y.
Oui. Alors, je suis parti avec une recherche là-dessus, et puis ça m'a amené vers l'idée de vous parler de deux jeunes joueurs dans deux sports différents qui jouent avec des petits vieux. Des joueurs de plus de 40 ans, mais qui les amènent à des championnats. Alors, évidemment, vous avez déjà en tête que je vais vous parler de Tom Brady et d'un petit peu de Rob Gronkowski.
Les autres, ils ont gagné quelque chose il n'y a pas longtemps. Hein?
Ouais, petit trophée, là. Ouais. Super Bowl, je pense.
Ouais, quelque chose de même.
Et d'autre part, je vais vous parler de David Eng et de Patrick Anderson, qui sont des joueurs majeurs de l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant.
Juste mettre une petite astérix, David Eng pour Tokyo ne sera pas partie de l'équipe parce qu'il n'est plus éligible pour l'équipe. Mais Patrick Anderson, lui, devrait être encore là, il sera le leader de l'équipe.
Oui, et les deux ont plus de 40 ans. David Eng a près de 45 ans et Patrick Anderson autour de 42. Alors, je voulais vous parler de deux petits jeunes, eux autres, qui arrivent dans leurs équipes respectives et qui jouent avec ces personnes-là, qui sont des héros dans les deux cas. Alors, je commence par roulement de tambour.
Oui, vas-y. Je ne sais pas si on l'entend. Oui.
Anthony Auclair, oui. Qui est lié rapproché pour les Buccaneers de Tampa Bay. Anthony, c'était sa quatrième saison avec les Buccaneers. Il avait joué les trois précédentes, trois saisons perdantes. Et là, tout d'un coup, il arrive au camp d'entraînement, puis il y a un monsieur qui a un numéro 12 sur son chandail, qui est là pour jouer vraiment, et qui s'appelle Tom Brady.
Il a été bien accueilli d'ailleurs à Tampa Bay quand il est arrivé.
Très bien accueilli, et même que la première journée, c'est Tom Brady qui s'est approché d'Anthony Auclair et qui s'est présenté et qui savait qu'Anthony Auclair s'appelait Anthony Auclair. Là, ça l'a jeté à terre. C'était pour lui une très grande preuve de leadership. Pour la plupart des téléspectateurs, dont je suis, Auclair, on le voit relativement peu. C'est un allié rapproché qui, dans la dernière saison, a capté aucun ballon de Tom Brady, mais il est très, très, très bien coté comme bloqueur pour son carrière. Et non seulement qu'il est bien coté, mais ses coéquipiers et Tom Brady apprécient beaucoup son travail. Et il dit que ça, là, ça, c'est une gloire instantanée que ses propres coéquipiers reconnaissent le bon travail qu'il fait. Il dit de Tom Brady que c'est un grand coéquipier, c'est probablement le meilleur coéquipier de tous les temps. Et tantôt, quand je vous parlerai de basketball en fauteuil roulant, on a la même description de David Ng et de Patrick Anderson. Ce sont de super coéquipiers. Quelques mots seulement sur Anthony Auclair. Quand il est arrivé pour le Rouge et Or de l'Université Laval, lui arrivait d'une carrière où il était carrière. Et c'est là qu'on l'a transformé en ailier rapproché, où il a gagné plusieurs championnats avec le Rouge et Or. Il a eu le plaisir de jouer avec Rob Gronkowski toute la saison parce qu'il joue à la même position. Et même lors d'un des touchés de Gronkowski s'est retourné vers lui, puis il lui a laissé le ballon pour qu'il puisse le spiker comme il se doit. Il y a eu une blessure au mollet pendant la saison. C'est un peu ça qui a expliqué le fait qu'il n'a pas joué pendant le Super Bowl. Mais il pense rapporter, si c'est possible, à cause de la COVID, le trophée Vince Lombardi en Beauce et peut-être au PEPS de l'Université Laval. Alors, c'était un petit clin d'œil à Anthony Auclair.
Il reste deux minutes et demie. On parle de basketball en fauteuil roulant maintenant.
Et tout de suite. Et le jeune, il a l'âge de mon fils le plus jeune. Il va avoir 26 ans bientôt. Il s'appelle Vincent Dallaire. Il n'avait jamais pensé avoir l'occasion de jouer aux côtés de ses plus grandes influences dans le sport. Il a commencé en fauteuil roulant en 2002. Donc, il devait avoir 7 ans. Après avoir été initié au jeu par son physiothérapeute, pendant que le Québécois amorçait son ascension dans l'équipe nationale, deux joueurs de longue date du programme menaient le Canada sur la scène mondiale. Pendant qu'il s'entraînait et qu'il grandissait tranquillement dans le programme, David Ng et Patrick Anderson ont gagné la médaille d'or en 2000, 2004 et 2012 lors des Jeux paralympiques et une médaille d'argent en 2008.
C'est juste te donner un petit exemple, Patrick Anderson a commencé à jouer sur la scène internationale en 1997 au championnat du monde junior. Vincent avait seulement un an, si mes maths sont pas mal bons. Donc, on parle d'un bon écart d'âge, là.
Oui. Puis, Vincent dit que c'est vraiment une chose bizarre. Je connais David Ng parce que David, il est un Montréalais, il est Québécois, depuis longtemps. Et c'est le genre de gars qu'on admire. Il est beaucoup plus vieux que moi. Je sais pas qu'est-ce que David Ng dit de ça. Et je me suis dit que je ne jouerais jamais avec lui. C'est tout simplement impossible. Puis j'ai fini par jouer dans la même équipe que lui. Comme tu disais tantôt, Dominique, David Ng ne pourra pas participer aux Jeux de Tokyo parce qu'il y a eu une révision des qualités qu'il fallait avoir pour jouer au basketball. David Ng a une jambe un peu plus courte que l'autre, donc il est considéré comme c'est bizarre à dire, mais pas assez handicapé pour pouvoir participer.
Oui, sa jambe n'est pas assez courte pour qualifier. Il reste 10 secondes. Yvan, donc merci beaucoup pour ta chronique. Ça a été très intéressant. Puis le défi lancé pour le basketball en fauteuil roulant.
D'accord.
Merci. on boucle la boucle. On a commencé avec du patinage de vitesse. On va terminer avec du patinage de vitesse. Louis Garon est avec moi en studio. Bonjour.
Bonjour, Dominique.
Alors, le patinage de vitesse longue piste a eu une longue et glorieuse histoire au Canada.
Oui, tout comme le courte piste, mais on va se concentrer sur le longue piste. C'est bien sûr votre invité, Laurent Dubreuil, qui m'a inspiré ma chronique de cette semaine, Dominique. Il faut dire que les premières médailles olympiques gagnées par le Canada le furent en 1932 à Lake Placid, pas loin d'ici, dans l'État de New York. Au total, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze furent raflées par les hommes, tandis que les femmes, dont le sport n'était qu'en démonstration, hein, ont remporté une médaille d'or et 2 d'argent. À la fin des années 30, le patinage de vitesse vit un déclin, hein, dans l'intérêt populaire avec la construction d'arénas. Alors, les gens se dirigent davantage vers le hockey que vers le patin. Il faut dire également que l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale n'est rien pour améliorer la cause du patinage de vitesse. Il faudra attendre, les Jeux d'Innsbruck en 1976 pour voir la première patineuse canadienne à remporter une médaille olympique. Il s'agit de Kathy Priestner qui décroche la médaille d'argent aux 500 mètres et arrive bien sûr les années 80. Au jeu de Lake Placid, Gaétan Boucher, hein, un nom qui résonne, hein, dans l'histoire de l'olympisme canadien, qui remporte sa première médaille olympique en montant sur la deuxième marche du podium à l'épreuve du 1000 mètres masculin.
Je me souviens bien, c'est une des deux seules médailles que le Canada a gagné en 1980.
Oui, il est devancé par le grand Eric Heiden, qui, lui, a remporté 5 médailles d'or lors de cette même Olympiade, terminant premier à toutes les épreuves auxquelles il a pris part. Mais c'est en 1984, Dominique, que Gaétan Boucher connaît son heure de gloire.
Avec 200 mètres encore à faire, Boucher qui s'en vient avec un chrono intéressant en perspective. La seule chose qui l'importe maintenant, c'est de savoir s'il peut faire mieux que 1:16.63. À la sortie du virage, il a des chances, oui. 1:12, 1:13. Le chrono égrène des secondes rapidement, cependant vite.
Oui!
1:16, 1:15.80. Eh bien ça, je pense que c'est la médaille d'or assurée pour Gaétan Boucher.
C'est bien sûr le 14 février 1984, dis-je, ça fait pratiquement 37 ans. À cette même Olympique à Sarajevo, Gaétan Boucher va remporter 2 autres médailles, une d'or aux 1500 mètres et une médaille de bronze aux 500 mètres.
Avec les succès de Gaétan Boucher, il faudra attendre une autre décennie avant de voir d'autres athlètes monter sur le podium dans cette discipline.
Oui, et la prochaine athlète à remporter une médaille, ce sera Susan Hawk, hein, la patineuse originaire de Winnipeg, a remporté 2 médailles d'argent de suite dans sa spécialité, soit le sprint, le 500 mètres. À Lillehammer, en 1994, a été battue par l'Américaine Bonnie Blair, qui était championne du monde et grande favorite. C'est le même sort, malheureusement, qui l'attend 4 ans plus tard à Nagano.
Turn, they drive to the line. The time for Doan, it's goal. 38-2-1. Her Doan time, 1:16.60. 1:16.93 for Ock. She takes the silver. What a terrific final half for Katrina LeMay-Doan.
Katrina LeMay-Doan, hein, championne olympique à Nagano. Elle récidive 4 ans plus tard à Salt Lake City. Hein. Elle devient la première à conserver son titre aux 500 mètres. Elle a également remporté le bronze aux 1000 mètres à Nagano. Il y a également un nom, Jeremy Witherspoon, qui est peut-être la plus grande déception olympique de l'histoire du Canada, parce qu'il n'a remporté qu'une seule médaille, une médaille d'argent. C'était à Nagano.
Il a tout gagné, sauf la médaille d'or.
Sauf la médaille d'or. Il a été 4 fois champion du monde de sprint, triple champion du monde du 500 mètres. Il a remporté tous les titres. Il était l'athlète canadien par excellence année après année, mais il était incapable de mettre la main sur un titre olympique.
Une autre athlète qui a marqué beaucoup, Cindy Klassen, devient la reine des Jeux de Turin.
Oui, on est en 2006. Elle est détentrice de 6 médailles olympiques, Cindy Klassen. La patineuse de vitesse sur longue piste est entrée dans les livres de records avec sa performance aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Elle a récolté pas moins de 5 médailles en une seule édition des Jeux olympiques, montant sur le podium à chacune des épreuves auxquelles elle a participé. Dominique remportant l'or aux 1500 mètres, l'argent aux 1000 mètres et en poursuite par équipe, ainsi que le bronze aux 3000 et aux 5000 mètres. Elle devient l'athlète olympique la plus décorée du Canada. Lors de cette même Olympique, rappelons également cette très belle médaille d'or de Clara Hughes aux 5000 mètres. Clara Hughes qui a remporté des médailles olympiques aussi bien aux Jeux d'été qu'aux Jeux d'hiver. Elle fait également partie de l'histoire du patinage de vitesse sur longue piste. À Sochi en 2014, Denny Morrison remporte sa première médaille olympique individuelle. C'est l'argent aux 1000 mètres. Mais ce qui est le plus beau là-dedans, c'est l'histoire, hein, parce qu'il a remporté grâce à la générosité de son coéquipier Gilmore Junior, qui lui a offert sa place après que Morrison eut chuté lors des essais olympiques canadiens. Il a ensuite mis la main sur le bronze au 1500 mètres. Et à Vancouver, en 2010, il a décroché avec Luca Makowski et Mathieu Giroux une surprenante médaille d'or à la poursuite par équipe, la seule médaille remportée par l'équipe masculine canadienne à l'anneau olympique de Richmond. Ça, c'était en 2010. Alors, en résumé, les performances de Laurent Dubreuil, hein, qui a remporté l'or aux 500 mètres, et la médaille d'argent également de la franco-ontarienne Yvanie Blondin, qu'il ne faut pas oublier, à l'épreuve du départ groupé lors des derniers championnats du monde de Reven aux Pays-Bas, ne sont pas le fruit du hasard, Dominique. Elles s'inscrivent dans une longue et riche tradition que représente le patinage de vitesse sur longue piste au Canada.
Merci beaucoup, Louis. Et pour nous, c'est la fin de l'émission. Je remercie Mathieu à la technique et tous mes invités. On se revoit dans deux semaines. Au revoir à tous.